Good morning. Well, I have to apologize, I will speak in French. Okay. Moi, alors, je suis étudiant en doctorat à l'EHESS et je travaille sur l'histoire de l'épidémiologie des maladies infectieuses et des vaccins des années 50 aux années 90 à peu près, c'est-à-dire jusqu'au développement de l'épidémie de sida et la controverse autour du vaccin contre l'hépatite B. Autrement dit, je travaille sur une histoire, une période au cours de laquelle se développe non seulement l'idée d'une maîtrise des phénomènes épidémiques, et une période au cours de laquelle le vaccin est un objet relativement peu controversé. Et vous savez quelle est l'importance de la controverse en histoire des sciences pour rentrer dans son objet. C'est un objet relativement peu controversé, relativement à l'histoire qui précède ma période, c'est-à-dire au 19e et au début du 20e siècle, et relativement aussi à l'histoire qui lui est contemporaine dans d'autres pays, aux États-Unis ou en Europe. Je travaille donc sur le terrain français. En effet, les archives sur lesquelles je travaille, des archives scientifiques d'épidémiologistes, des archives administratives ou politiques, des commissions qui conseillent le gouvernement, des archives juridiques relatives aux accidents, laissent voir au premier abord une histoire assez tranquille, nimbée dans une espèce de grisaille assez bureaucratique, statistique, politique. Or, cette grisaille, cette routine, devrait-on dire, puisque vous le savez, la routine est un mot important du lexique vaccinal, on parle de vaccination de routine, est étonnante, car tout, d'une certaine manière, s'oppose au maintien de cette routine vaccinale. D'abord les accidents vaccinaux, la résurgence des épidémies, les résistances des populations, etc. Autrement dit, ce régime routinier du vaccin sur lequel je travaille, ce régime routinier de la vaccination, ne tient pas par inertie. En tout cas, pas seulement. Il suppose, il dissimule tout un travail de routinisation, de régulation qui permet à la routine de tenir. Mon travail porte donc sur ce travail auquel participent les épidémiologistes et l'épidémiologie en général. C'est un travail de routinisation qui est parfois difficile, en tout cas qui n'est pas nécessairement routinier. Et donc ma communication aujourd'hui va tenter de donner un exemple de ce travail-là avec la question du calendrier vaccinal. Alors j'imagine que vous connaissez tous ce qu'est un calendrier vaccinal si vous avez des enfants, et si vous n'en avez pas, vous vous en souvenez certainement pas puisque ça concerne les enfants en bas âge. Un calendrier vaccinal, c'est un calendrier simplement qui donne un rythme et un ordre aux différentes vaccinations, et dont l'enjeu principal proprement scientifique est de réduire le nombre des injections. Et cette question, l'immunisation multiple, est une des questions principales des épidémiologistes dans la deuxième partie du XXe siècle. Je vais donc vous présenter ça et, à travers la question du calendrier vaccinal, traiter la question des essais sur lesquels se sont construits les calendriers vaccinaux français et des essais qui, on va le voir, ont une dimension comparative. Dans un premier temps, je vous présenterai en quoi consiste ce calendrier vaccinal, je vais vous exposer ses enjeux. En revenant sur une conférence importante pour les acteurs qui s'est tenue en 1959 au Centre international de l'enfance, une institution sur laquelle je travaille beaucoup et qui a mené des essais cliniques assez importants sur la période. Dans un deuxième temps, je vais développer ces essais cliniques qui ont été menés par cette même institution. Et enfin, je reviendrai sur cette comparaison qui met en regard la France et l'Afrique dans l'élaboration de calendriers vaccinaux. Alors, en 1959, donc, s'est tenu au Centre international de l'enfance, dans le château de Longchamp, au bois de Boulogne, un colloque, un séminaire sur le calendrier des vaccinations. C'est, semble-t-il, un séminaire qui a bénéficié d'une postérité importante, puisqu'en effet, quand on s'intéresse à la question du calendrier vaccinal en France, on trouve dans de nombreuses communications, à l'Académie de médecine, dans les publications scientifiques, une référence à cet événement. Or, c'est un événement somme toute banal dans la vie scientifique d'une discipline. Et si cet événement a pu se distinguer des autres événements de ce type-là, c'est parce que, d'abord, il a permis de justifier un programme de recherche. Un programme de recherche au sein du Centre international de l'enfance. Qu'est-ce qu'était le Centre international de l'enfance ? Le Centre international de l'enfance, en 1959, c'est une institution, relativement jeune, qui avait été fondée 10 ans auparavant par Robert Debré et Ludwig Rachmann, et qui s'était donné le projet d'avoir une conception totale de l'enfance. Il rassemblait en effet des chercheurs de diverses disciplines, pas seulement donc des épidémiologistes, mais aussi des sociologues, des psychologues, qui prétendaient étudier tous les aspects relatif à la santé de l'enfance. Et comme la vaccination, vous le savez, dans la deuxième partie du XXe siècle, est de plus en plus une affaire liée à l'enfance, le Centre national de l'enfance a naturellement accueilli une station pilote qui était d'abord chargée de la standardisation du BCG et qui, progressivement, en est mis à s'intéresser à tous les vaccins, et notamment à cette question d'immunisation multiple. Et c'est la raison pour laquelle ce séminaire de 59, qui traitait donc de cette question de l'immunisation multiple et du calendrier, a pris d'abord une telle importance pour ses acteurs, c'est qu'il a justifié l'élaboration d'un nouveau programme de recherche, l'abandon de l'étude exclusive du BCG, en faveur d'une étude de l'ensemble des vaccinations. Mais ce sujet-là, l'immunisation multiple, le calendrier vaccinal, n'appartenait pas, évidemment, aux chercheurs du Centre international de l'enfance. C'est un sujet qui, après-guerre, intéresse les épidémiologistes, les responsables de santé publique de la plupart des pays qui mènent des politiques vaccinales, qui ont développé des politiques vaccinales. Il prétend traiter une question assez simple, en fait. Dans la première partie du XXe siècle, un certain nombre de vaccins sont apparus, ont été développés, testés, sont devenus des produits de santé publique. Et il s'agit, en fait, dans cette deuxième partie du siècle, d'organiser cette multiplication des vaccins, de faire en sorte que la multiplicité des vaccins ne menace pas les qualités de simplicité de cet objet qui font qu'on s'en sert en santé publique. En fait, le calendrier vaccinal, vous l'avez compris, c'est une façon d'ordonner la multiplication des vaccins, de réduire le nombre d'injections et de préserver ses qualités d'efficacité et d'innocuité lorsque les vaccins sont injectés simultanément. C'est donc un travail sur le rythme, l'ordre et le commencement de la vaccination dans la vie de tout individu. Ça, c'est pour la dimension strictement, disons, scientifique de l'immunisation multiple ou du calendrier vaccinal. Évidemment, le calendrier, comme tout calendrier, a des enjeux proprement politiques et relatifs à la santé publique. D'abord, construire un calendrier des vaccinations, c'est de faire en sorte de simplifier cette technique et donc de la rendre plus acceptable et donc plus diffusée. C'est de faire en sorte aussi que la vaccination soit, que les vaccinations soient pratiquées de plus en plus tôt, donc sur des enfants qui ne pourraient garder des injections aucun souvenir, pour ainsi dire. Ça faisait partie des arguments des participants au colloque de 59. Et enfin, comme tout calendrier, c'est quelque chose qui ordonne le temps commun et qui signe l'emprise, on va dire, de l'État dans la vie de tout individu. Le calendrier vaccinal reste un calendrier vaccinal, une façon d'ordonner le temps. Or, disaient les intervenants du séminaire de 59, le calendrier vaccinal avait une caractéristique importante, c'était qu'il était spécifique à chaque contexte épidémiologique. En d'autres termes, on ne pouvait pas construire un seul calendrier vaccinal valable pour tous les pays. Pourquoi est-ce qu'on observait cette multiplicité de calendriers? Puisque le calendrier dépend d'une part d'un contexte épidémique et ensuite d'une population à laquelle il doit être adapté. Un calendrier de vaccination, disait un des pédiatres américains présents au séminaire, à ce colloque, doit être quelque chose de vivant qui peut avoir à être élagué, fertilisé et soigné. Nous pensons que le chef jardinier devrait être le pédiatre, en contact fréquent avec les immunologistes et les experts de santé publique. Ainsi, pour construire des calendriers vaccinaux, il fallait non seulement connaître l'état épidémiologique d'un pays, mais aussi expérimenter sur des sujets représentatifs de la population générale, pour lesquels après, construire un calendrier. Il faut savoir qu'en matière de vaccins, il y a une tradition d'expérimentation assez importante dans les territoires extra-métropolitains. Le vaccin contre la typhoïde a par exemple été expérimenté au Maroc, le vaccin contre le BCG a fait l'objet d'expérimentation en Afrique noire, etc., etc. Sans compter tous les instituts Pasteur présents en dehors de la métropole et qui ont expérimenté le vaccin sur les populations locales. Or, on observe un certain paradoxe, c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre des épidémiologistes dans la deuxième partie du XXe siècle, puisque le calendrier vaccinal devait être adapté à chaque contexte épidémique, qu'ils pratiquent leurs expérimentations sur des terrains métropolitains. Or, en vérité, on a perpétué cette tradition d'expérimentation dans des territoires extra-métropolitains avec ces études sur le calendrier vaccinal. Il s'agit d'études, par exemple, qui ont été menées par l'Institut Pasteur et d'autres organisations comme l'OCEAC. Bon. Et là, le Centre international de l'enfance, donc l'institution qui organisait ce séminaire et qui va pratiquer les essais, on va y revenir, observe à une spécificité assez forte. C'est-à-dire que de nombreuses institutions ont mené des essais sur les calendriers vaccinales, sur immunisation multiple, dans des territoires extra-métropolitains. Sauf que ces essais avaient la particularité de répondre à des enjeux locaux. C'est-à-dire que la plupart du temps, on intégrait dans ces essais le vaccin contre la fièvre jaune. Or, la spécificité du Centre international de l'enfance sur notre période, c'est que le Centre international de l'enfance va mener des essais identiques à ceux qu'il a menés en France, en Afrique. Sans partir donc de préoccupations au premier abord locales et africaines. Mais en mettant en place un dispositif d'études parallèles de deux populations, l'une française, l'autre africaine, avec une méthodologie quasiment identique. C'est maintenant ces essais que je vais vous exposer. Ce sont maintenant ces essais. Donc, on s'en souvient, il y a eu un colloque important en 59. Deux ans plus tard, les équipes du Centre international de l'enfance, de la station pilote, donc qui regroupait les épidémiologistes du centre, commencent à mettre au point une méthode pour étudier l'immunisation multiple, le calendrier vaccinal. Ils mettent au point une méthode, puis ils cherchent des sujets. Les sujets, ils les ont d'abord cherchés dans des institutions fermées de type orphelinat, hôpitaux, etc. Mais comme ils étaient à la recherche de sujets représentatifs de la population générale, ils sont finalement allés dans des PMI, c'est-à-dire des institutions, des centres de protection maternelle et infantile qui quadrillent le territoire français où on pratique la vaccination. Ils sont allés dans des PMI de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des PMI où on vaccinait principalement des enfants d'origine étrangère, avec des noms qui manifestement signalaient une immigration récente d'origine maghrébine, portugaise ou africaine. C'est-à-dire que la population française sur laquelle les épidémiologistes du CIE ont mené leurs essais sur les calendriers vaccinaux était déjà des populations d'origine majoritairement émigrée. On met en place donc cette étude en 64. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude, mais on étudie trois calendriers vaccinaux distants, et c'est une étude en fait qui se perpétue au long des années 70 et qui va continuer à être menée dans des PMI de Seine-Saint-Denis. Or, à partir de 1970 précisément, pour la première fois, les épidémiologistes du Centre international de l'enfance vont mener une étude au Cameroun. Et là, pour l'étude camerounaise, ils décident de mettre en place la même méthodologie que dans l'étude française. Alors certes, le protocole est différent et les sujets ne sont pas exactement les mêmes. En revanche, et prétend-il, on ne pourra pas, à partir de ces dispositifs-là, construire un seul calendrier. Chaque étude vaut pour le pays dans lequel elle a été menée. Pourtant, les auteurs affirment tout de même une certaine dimension comparative en analysant les résultats. Ils renvoient sans cesse les populations d'une étude à l'autre, les enfants camerounais aux enfants français, et surtout, un volet de l'étude africaine comporte une dimension comparative, c'est-à-dire que on voulait savoir, en plus des questions immunologiques, on voulait étudier des questions de nutrition et savoir dans quelle mesure les facteurs nutritionnels influençaient la protection conférée par chaque vaccin. Or, pour ce volet strictement nutritionnel, on a mis en place une étude comparative entre des enfants des PMI et des enfants africains, une étude d'anticorps. Et là, ce qu'en disent les auteurs, je vais vous dire ce qu'en disait l'auteur, à propos des résultats, on devrait donc s'orienter vers des causes liées à l'environnement plutôt qu'à des facteurs génétiques. Ceci est corroboré par des observations faites dans la banlieue parisienne sur des enfants d'origine algérienne, sur d'autres d'origine africaine, et enfin sur des enfants portugais. C'est-à-dire que ces enfants français servent plus spécifiquement de témoins sur les questions nutritionnelles et de vaccination. Non seulement on a un dispositif LASH comparatif, mais en plus, au sein de ces dispositifs LASH, il y a une comparaison, disons, plus serrée sur la question nutritionnelle. Première étape de cette mise en parallèle de deux territoires. Deuxième étape, en 1974, on mène une autre étude, non plus cette fois au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire. Et là, plus spécifiquement, on étudie, au sein d'un calendrier vaccinal, la protection conférée par un vaccin antipoliomyélitique. Devant les résultats, assez mauvais, on change le cours de l'étude française. Deuxième étape. Donc, les études africaines modifient légèrement le cours de l'étude française qui est poursuivi dans les PMI de Seine-Saint-Denis. Troisième étape, on mène une autre étude en Côte d'Ivoire qui inspire une étude française. On monte une étude d'un calendrier extrêmement simplifié en Côte d'Ivoire, et cette fois, la même méthodologie et le même protocole est monté en Seine-Saint-Denis. Alors, à quoi sert ce dispositif de mise en parallèle de ces deux territoires ? Les épidémiologistes du Centre national de l'enfance s'interdisent de parler de comparaison. Ils parlent sans cesse de mise en parallèle de deux territoires. Il ne saurait, car je vais le répéter, mais il ne saurait y avoir un calendrier vaccinal idéal, valable pour tout pays, et encore moins pour l'Afrique et la France, réaffirme-t-il à plusieurs reprises. Or, ils instaurent les conditions d'une comparaison. D'abord, ils constituent des populations d'études qu'ils rendent comparables. Ensuite, ils développent des méthodologies identiques en France et en Afrique. Enfin, ils utilisent les mêmes vaccins avec des variations de doses, certes, mais les mêmes vaccins. Bon, à quoi sert ce dispositif comparatif ? Si on écoute les membres du Centre international de l'enfance, ce dispositif comparatif sert à éclairer les spécificités du terrain africain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on considère que les enfants français sont les témoins des études africaines. Et lorsque, dans les années 70, les responsables du Centre international de l'enfance demandent si l'on doit maintenir l'activité en France, les épidémiologistes répondent « En aucun cas, on ne doit se retirer du terrain français, puisque les enfants français servent de témoins aux enfants africains. » Et on l'a vu avec la micro-étude sur la nutrition, cet argument-là trouve une incarnation réelle dans la pratique des épidémiologistes. Cela dit, on peut quand même inverser le rapport. C'est-à-dire se demander si on s'arrête bien là, si c'est bien la France, d'une certaine façon, qui rentre dans le terrain africain, et pas aussi l'Afrique qui rentre dans le terrain français. Pourquoi est-ce qu'une institution française, le Centre international de l'enfance, qui n'a aucune expérience en médecine tropicale, va mener des essais vaccinaux en Afrique, dans les années 70 ? Alors, il y a des enjeux proprement institutionnels. Dans les années 70, on va dire la réputation d'une institution comme le Centre international de l'enfance va se faire à l'international plutôt qu'en France. La vaccination est à l'époque de plus en plus une affaire de pays en développement. Les années 70, c'est aussi la mise en place du programme élargi des vaccinations de l'OMS. C'est l'époque au cours de laquelle on pensait que le vaccin était d'une façon, une certaine façon une technique admise dans les pays occidentaux, alors que dans les pays du Sud, tout restait à faire dans les pays en développement. Et en fait, on peut lire les incursions africaines du Centre international de l'enfance comme une stratégie de rapprochement de l'OMS qui, en fait, a bien fonctionné, puisque le Centre international de l'enfance, va faire financer une partie de ses activités par l'OMS à la fin des années 70. Mais on peut continuer. À quoi sert l'Afrique dans le terrain français ? En fait, l'Afrique avait ceci d'intéressant pour les épidémiologistes français, que la simplification du calendrier vaccinal semblait y être une nécessité exacerbée. Sans réduction du nombre d'injections, disait-il, on pensait qu'il était impossible de monter des campagnes et toucher les populations. On testa donc des associations dont l'efficacité n'était pas aussi importante qu'attendue pour l'individu en Afrique, mais qui avaient des effets sur l'immunité de groupe. Or, ces associations, une fois perfectionnées, n'étaient pas inutiles au terrain français, où la simplicité était également une qualité à travailler, certes moins impérativement, mais tout de même, et les essais sur le calendrier vaccinaux en attestent. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'Afrique a été le lieu de radicalisation d'une des trois qualités de la vaccination, la simplicité. Et les acteurs l'affirment. Je vais citer un médecin colonial et postcolonial, Labusquière. On a voulu distinguer les méthodes à appliquer dans les pays dits développés et celles à appliquer dans les pays en voie de développement. Cela est artificiel. Où que ce soit, il faut rechercher ce qui est efficace, ce qui est utile et ce qui est bien toléré. Et si une méthode plus simple se révèle bonne, elle doit pouvoir être appliquée partout, quel que soit le degré de développement du pays considéré. Et par exemple, des essais de simplification sur les tétanos ont ensuite été directement réutilisés en France dans le calendrier vaccinal. D'une certaine façon, aussi pour cette question d'exacerbation de la simplicité en Afrique, le calendrier vaccinal français s'est construit en Afrique. Dans les deux contextes, on observe des impératifs de simplicité, simplement dans l'un des deux contextes, ils sont exacerbés, c'est-à-dire dans le contexte africain. Pour conclure, on peut se demander, et je vais conclure sur deux points. D'une part, il est assez intéressant de noter qu'il y a une persistance de l'Afrique dans les années 70 pour une institution de recherche qui n'a pas de tradition coloniale comme lieu d'expérimentation. Et le cas donc, du CIU est intéressant pour cette raison, puisqu'à la différence des épidémiologistes et des virologistes de Pasteur, ils n'ont pas cette histoire-là qui est liée à l'Empire. En revanche, ils s'intègrent dans des réseaux qui lui préexistent, puisque pour mener leurs enquêtes, ils ont recours aux instituts Pasteur, à des organisations comme l'OCEAC, qui sont liées à cette histoire coloniale. Et dans un deuxième temps, je voudrais poser une question pour finir, c'est-à-dire se me demander si la comparaison, en tout cas le parallèle que mettent en place les épidémiologistes du Centre international de l'enfance est plus lié à leur méthode, à la façon dont ils ont constitué leur sujet, ou bien à l'objet sur lequel ils travaillaient. C'est-à-dire qu'on peut considérer que des épidémiologistes comparent deux populations parce qu'ils les ont rendues comparables et qu'ils montrent des protocoles qui permettent cette comparaison. On peut aussi considérer que le vaccin est un objet qui considère peu l'individualité de ses sujets. Et en santé publique et en recherche, le sujet, en termes de vaccin, apparaît seulement soit en cas d'accident, soit en cas de spécificité très forte. En l'occurrence, la vaccination permet de construire des sujets qui sont relativement comparables. Et donc je pense que ce dispositif comparatif qui a été établi dans les années 70 est peut-être autant dû au travail de ces épidémiologistes qui, on l'a vu, donc, ont mis en place ce dispositif pour diverses raisons qu'à la qualité propre de cet objet qui ne nécessitait pas nécessairement des sujets très différents pour être expérimenté. Voilà.
Merci beaucoup Gaëtan. Je vais peut-être dire un mot en anglais pour ceux qui n'ont peut-être pas perçu toute la richesse de votre présentation. I would like to emphasize the fact that the vaccinal calendar is a very important is important for the history of mentalities, and it's a subject of the utmost actuality. We are now this year changing in France the calendar, and interestingly, the calendar was supposed to be something of the childhood. You mentioned the fact that it's the child, and the child is unconscious of this period of his life. But now the calendar is becoming something which covers the whole life of the individual. Normally, in the future calendar, we'll have something in the middle of the life and before retirement. So it means the whole population is now concerned by the calendar. And I would also say something that the vaccinal calendar is an important part of the medicalization of the body and of the society. We have very interesting work by Silvia Cifolo showing how the vaccination was in fact the beginning of the medicalization in Egypt, medicalization of time, a new rhythm for the body, for the groups, for the families, and so on. I would like to also to say that the establishment of the vaccinal calendar is also a scientific question. It's not only the idea that it's better, that it's very simple to combine vaccination, it has also to be distributed in a period of life. And there are some major scientific problems connected to the establishment and the fabrication of the calendar. For example, the rhythm of the vaccination during the first period of the childhood is very important. And in the comparison between France and Africa, it's a real problem because the children are breastfed. And it means that they have some antibodies from the mother. And these antibodies interfere with the efficacy of the vaccine. So a big problem and a major bias in the comparison is the fact that there are existing antibodies and we don't know exactly, and it's very important when to vaccinate during the first year of childhood. So it's a major problem. And the simplicity of the combination of vaccine is just apparent. It's not because to combine vaccine in one shot is something that raises very important problems. Being given the complexity of the immune system and the multiplicity of pathways inside the immune system, it's very difficult to know what happens really when you combine 6 or 7 or 8 now, 8 vaccines. And it's a big problem now because some people want to have this specific vaccine and not the whole combination. And now it meets the opposition of the administration, because now we have no longer single formulas and we have only combined vaccine. So, you know, it's the a last point, very technical point, the connection between local needs and the program of immunization. It's a major political question than for developing countries. We have now programs that are modeled in Geneva and are in contrast with the local vaccine which are urgently needed, such as meningitis. So that just to evoke the bunch of problems connected with your... And a very small technical point, you are talking about the salt vaccine against polio, which had bad results. Or I wonder whether it was a salt vaccine or a variant, which is the Lepine vaccine, which was a modified vaccine. That was a salt vaccine. Okay. I stop there. Sorry, I don't know who was the first one. I just take the first.
Merci pour cette belle présentation, extrêmement stimulante, parce que ça nous parle de plein de choses et des relations entre la France et l'Afrique, de à quoi sert l'Afrique dans le terrain français. C'est, vous pouvez relire les travaux de Jean-Pierre Dozon, je ne sais pas s'il est là.
Si, il est là.
Sur effectivement l'influence des élites africaines dans la politique française. Voilà, on est à ce niveau de comparaison. Moi, ma question, c'était la période dont vous parlez. Vous n'avez pas soulevé ce point, mais j'imagine que c'est dans la thèse, a été quand même marqué par un événement qui s'appelle les indépendances des pays africains. Donc, quid du rôle des élites politiques africaines, des ministères de la santé africains, entre le début des travaux du CIE pré-indépendance et puis les années 70 en Côte d'Ivoire et au Cameroun? Bref, dans quelle mesure ils ont été associés ou pas à ces affaires-là? Je pense que là, on ne peut pas passer sous silence cet événement, ce tournant qui n'en était peut-être pas un sur les affaires de calendrier vaccinal. C'est précisément la question.
Beaucoup de ministres de santé publique africains étaient membres du conseil d'administration du Centre national de l'enfance. Il y avait des contacts directs avec les ministères de santé publique, entre les épidémiologistes et les ministères. C'était leur interlocuteur, en fait.
Next.
Bonjour, Yannine Acker.
Merci beaucoup pour cette présentation super fascinante. J'ai deux questions, j'imagine. Moi, je trouve ça très intéressant de voir ce que vous avez dit, que c'est énorme. Enfin, le groupe témoin, c'est la France, et après, il faut aller regarder les spécificités de l'Afrique. Donc, je pense que ça c'est une figure qui est très récurrente. Selon les normes en France, il y a des différences en Afrique. Donc, je voulais juste dire que la comparaison, comme vous la décrivez comme outil, c'était toujours aussi politique. Et surtout aussi, il y a des bons travaux, par exemple, en anthropologie, qui interrogent comment la figure de l'autre dans la comparaison en une importance vraiment pour la construction du problème. Après, ce qui m'a intriguée aussi, c'est que les essais ont été faits en Seine-Saint-Denis. Donc, et de regarder l'histoire coloniale de la Seine-Saint-Denis, ben, comme avec l'hôpital, par exemple, comme à Vincennes, ou des choses comme ça. Donc, ils n'étaient pas non plus faits dans le 6e.
Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'est en Seine-Saint-Denis.
Je pense que c'est très, très important aussi de regarder vraiment l'histoire coloniale et post-coloniale de la Seine-Saint-Denis, même.
Oui, c'était plus précisément des essais qui ont été menés à Drancy et au Blanc-Ménil. Et oui, quand on regarde en fait les listes de randomisation des sujets, ils sont presque tous des noms d'origine étrangère, donc évidemment...
Merci votre présentation. Et j'avais un commentaire très rapide, une question. Le commentaire, c'était cette idée qu'on oublie la vaccination, et je pense que je rejoins Anne-Marie en disant que c'est des événements très marquants, souvent en tout cas dans le contexte africain, autant dans la vie villageoise, c'est-à-dire la campagne qui arrive, tout le monde qui descend, c'est un moment de grande sociabilité. Et c'est vraiment, on voit, parce que moi j'ai participé à des campagnes de vaccination, parce qu'avec le BCG, on a la cicatrice, et souvent les gens perdent leur carnet, donc on doit vérifier, et il y a toute cette socialité autour du fait qu'on déshabille les mamans, les vieux messieurs, les enfants, et puis on palpe les bras pour trouver la cicatrice, pour savoir est-ce qu'on vaccine ou non. Et dans beaucoup de contextes africains, c'est vraiment... le moment symbolique et le seul d'une relation entre le corps et l'État. J'ai énormément apprécié votre exposé, et donc je vais poser une question un peu critique. Quelque part, j'ai ressenti une espèce de... peut-être une projection sur cette... Il y avait une construction de l'altérité entre la France et l'Afrique, cette idée presque avec une petite odeur de scandale, on expérimente sur les Africains, etc. Et la Seine-Saint-Denis, c'est l'Afrique, etc. Et je me demande vraiment si cette altérité existait à l'époque pour ces gens-là. Je ne suis pas sûr qu'elle existait. Mais c'est peut-être Jean-Pierre Dozon qui est plus... Mais ça, c'est quand même quelque chose de fascinant dans la France. Il y a vraiment une différence entre la colonisation française, moi qui viens d'un pays anglo-saxon, il y a une construction complètement différente de l'altérité.
Vous avez raison. C'est une question qui n'est pas du tout posée par les épidémiologistes, par exemple. Ça leur semble une évidence, ce qu'ils font.
Oui, moi j'étais aussi enchanté par votre propos parce qu'il le donne il nourrit des réflexions que je mène depuis longtemps sur cette affaire de la France et l'Afrique en l'occurrence. Donc, alors, ce que je trouve très intéressant, vous l'avez dit, c'est que on a évoqué hier l'universalisme biologique. Hein, on voit bien comment là il existe en l'occurrence. Il existe à travers avec son côté French, son côté français. C'est-à-dire que, précisément, tous les individus, quels qu'ils soient, y compris, en effet, l'altérité, elle est quasiment effacée, sont susceptibles d'être vaccinés, quels que soient les contextes. D'ailleurs, d'une certaine façon, moi je pense que le modèle pastorien, en quelque sorte, il est construit comme ça. Hein. Il est construit à la même époque, Troisième République, c'est vraiment un modèle politique. C'est pas uniquement un modèle... bactériologique ou un modèle. Alors, ce qui est remarquable aussi dans votre affaire, c'est que vous décrivez quelque chose qui se tourne en effet, et Laurent Vidal l'a dit, autour des indépendances en l'occurrence. Bon. Or, en effet, ce qui se met en place à ce moment-là, c'est pas du tout les indépendances. Ce qui se met en place, c'est un système que moi j'ai appelé l'État franco-africain. C'est-à-dire quelque chose qui relève de... Et c'est étatique dans tous les cas. C'est-à-dire que la France, à ce moment-là, et les deux pays le Cameroun et la Côte d'Ivoire, sont des pays où précisément les liens entre la France et l'Afrique vont bien loin de se disjoindre, vont se renforcer à ce moment-là. C'est-à-dire que se construit avec la Ve République... quelque chose d'autre, une nouvelle histoire entre la France et l'Afrique, qui est un système politique, alors que la presse appelle France-Afrique, mais qui n'est pas intéressant sous ce label-là. Et là, vous l'illustrez évidemment ô combien, puisque là, on a un monde qui est un monde qui n'a rien à voir avec les réseaux de Focard ou de machin comme ça. On a un autre type de monde, qui est un monde, le CIE, le Centre international de l'enfance, avec en effet des médecins, et avec des traditions en effet anciennes, colonial éventuellement pour certains, et puis des ministres africains, etc. Et tout le monde se retrouve là. Et donc quelque chose se bâtit là, que je trouve passionnant, et en effet, il y a une espèce de réciprocité qui fonctionne, hein, entre d'un côté les enfants africains et les enfants francs-français, il y a un principe dans cette histoire-là en effet, non pas d'égalité, c'est pas la question, mais ils sont semblables. On n'est pas dans l'altérité, en effet. Hein, parce qu'on est dans un ensemble politique qui est pensé comme tel, hein, à ce moment-là. Donc, c'est une nouvelle histoire qui commence, et on en voit encore, sur d'autres sujets, les effets, jusqu'à présent, hein, évidemment, de cette longue histoire. Donc, il faut inscrire votre affaire dans une anthropologie politique de la France contemporaine, évidemment. Mais votre objet est tout à fait remarquable, parce qu'il illustre ça très, très bien, et j'en suis... enchanté, si je veux dire. Enfin, on arrive à penser ce qu'est la France depuis 50 ans, n'est-ce pas ? Sans l'Afrique, ça ne fonctionne pas.
Charlotte, je...
Merci. J'aimerais aussi vous remercier pour une communication très stimulante. J'ai juste une petite perplexité qui est peut-être due à mon ignorance de votre sujet.
Sûrement.
Sans doute. Et j'aimerais mettre votre communication en regard de celle de Janice Graham. Elle est sortie à l'instant. Elle a parlé hier après-midi dans l'une des sessions. Les entreprises de production des vaccins, à moins qu'une partie de votre communication m'ait échappé, vous n'en avez pas parlé. Comment cela se fait-il ? Est-ce qu'elles n'ont aucun rôle dans l'établissement de ce calendrier ?
Vous avez raison. Alors, il y a quand même une particularité qui est propre aux années 60-70, c'est que la Big Pharma ne s'intéresse pas trop aux vaccins à cette époque. Mais il y a quand même, par rapport aux années 90, par exemple, et les producteurs de vaccins en France sont principalement Merieux et Pasteur. C'est eux qui donnent les vaccins. Voilà. C'est pareil, les épidémiologistes sont en collaboration constante et sur leur terrain scientifique et sur les terrains administratifs ou politiques avec les industriels. Mais c'est très difficile, moi je travaille plutôt sur des archives, même exclusivement sur des archives, de travailler sur les archives de l'industrie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez absent, mais que j'essaie de faire ressortir par ailleurs quand même. Mais il y a un des effets de contexte, hein, je le répète. Dans les années 60-70, le vaccin n'est pas un objet qui est... pas autant qu'on pourrait l'attendre, puisque c'est un des objets quand même de santé publique les plus répandus. Mais c'est pas quelque chose en plus sur lequel on fait beaucoup de bénéfices, par exemple.
À cette époque. Je suis désolée, d'autant plus que je suis un tout petit peu responsable d'un dysfonctionnement du temps. Donc, on a une pause. Beaucoup de la richesse, il y a au moins trois personnes qui ont autant de questions.